RCF.
La Bible a plusieurs voix. Avec aujourd'hui les voix de
Claude,
Joseph,
Michel,
Françoise,
Malou et Jérémy qui nous accompagnent à la technique. Bonjour à tous. Nous allons encore une fois tenter l'aventure de la lecture de la Bible à partir d'une épître qui n'est pas très facile d'accès, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est donc la deuxième épître de Saint Pierre. Nous allons quand même nous y risquer aujourd'hui et sans doute, elle n'est pas très longue, elle a cet avantage de ne pas être très longue, mais elle n'est pas quand même très facile à lire. Alors cette épître a été donc une épître qui n'a pas été facilement reconnue non plus comme faisant partie, puisqu'elle a été tardivement intégrée. Alors, de quoi est-il question dans cette deuxième épître de Saint-Pierre ? Eh bien, il est question de la vocation du disciple du Christ. Comment peut-on être fidèle à cette foi reçue et comment va-t-on en quelque sorte aussi passer de l'époque apostolique, de celle où il y a encore des témoins qui ont vécu avec le Christ, qui ont vu le Christ agir et qui ont participé en quelque sorte à cette existence. Comment va-t-on passer de ces témoins à une autre époque où il faudra croire en s'appuyant sur le témoignage de l'écriture en particulier. Donc il y a tout cela dans cette épître, mais je pense que on pourrait encore le dire d'une autre façon. Je donne la parole à Claude.
Non, j'allais dire un peu autre chose par rapport aux auditeurs, n'est-ce pas ? On a lu longuement des extraits dans la Bible. Et puis là, aujourd'hui, on se décide entre nous à changer de livre. Alors, on a beaucoup discuté. Hein. On s'est dit, on va lire la lettre aux Hébreux, on va lire l'Apocalypse. Et puis finalement, on s'est dit, on va lire la deuxième épître de Saint-Pierre. Et je me demande si la raison pour laquelle on l'a fait, c'est pas aussi un peu pour notre plaisir à nous, c'est-à-dire que chacun de nous connaissait quelques belles citations dans l'épître de Saint-Pierre, et puis du coup on s'est dit on va la travailler. Alors je dis ça un peu pour faire un aveu, n'est-ce pas, c'est que si on se retrouve autour des textes de Bible, c'est parce que nous-mêmes on a aussi du plaisir à les lire et à les découvrir, et on s'est rendu compte de la difficulté des choses dans le temps assez long qu'on a pris pour lire ce premier chapitre. Alors s'il y en a qui se découragent, ils sauront qu'il faut reprendre 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, nous allons être relativement modestes. C'est vrai que cette épître ne comporte que 3 chapitres, mais aujourd'hui nous nous proposons de lire ensemble simplement les 11 premiers versets du chapitre 1er. Alors je vous propose d'abord d'entendre ce début d'épître.
Siméon, Pierre, serviteur et apôtre de Jésus le Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus Christ, une foi de même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous viennent en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. En effet, la puissance divine nous a fait don de tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa force agissante. Par elle, les biens du plus haut prix, qui nous avaient été promis nous ont été accordés, pour que par ceux-ci vous entriez en communion avec la nature divine. Vous étant arrachés à la pourriture que nourrit dans le monde la convoitise. Et pour cette raison même, concentrant tous vos efforts, joignez à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la ténacité. À la ténacité, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car ces qualités, si vous les possédez en abondance, ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour connaître notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, celui à qui elle manque, c'est un aveugle qui tâtonne. Il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, redoublez d'efforts pour affermir votre vocation et votre élection. Ce faisant, pas de danger de jamais tomber. C'est ainsi en effet que vous sera généreusement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Nous avons bien conscience que ça ne doit pas être très facile à entendre. C'est vrai que nous avons le texte sous les yeux et nous peinons à le lire. Alors on va essayer d'aller verset par verset. Alors tout d'abord, nous avons les deux versets de la salutation. Siméon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi de même prix que la nôtre. Alors on pourrait traduire donc une foi aussi précieuse pour nous que pour vous. Hein, c'est un petit peu comme ça. Alors déjà, on a un certain nombre d'éléments peut-être à souligner dans ce premier verset.
Oui, d'abord la présentation des acteurs. On parle de Siméon Pierre, serviteur et apôtre. On a l'impression qu'ils sont tous dédoublés. Hein, Siméon Pierre, donc deux noms, serviteur et apôtre, deux qualificatifs. Jésus-Christ, là encore, un nom et deux noms. Notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, deux qualificatifs, là, à nouveau.
Alors peut-être qu'il faut quand même dire que si vous soulignez ces éléments qui semblent être toujours par deux, c'est parce qu'on a l'impression tout au long de ce texte qu'effectivement il y a bien quelque chose qui est en jeu dans l'interprétation du texte pour nous aussi. Hein. Donc d'un côté, c'est vrai, vous soulignez qu'il y a le Sauveur Jésus-Christ et puis à la fin il sera question de Jésus notre Seigneur, par exemple, pour ne prendre que ces deux appellations. Et nous savons que dans la suite, nous aurons effectivement à articuler tous ces éléments.
Oui, oui, oui. C'est sûr aussi que finalement, toute réalité a un double aspect. Il faut commencer par dédoubler les choses. Hein. Il y a le dédoubler les choses pour commencer à comprendre quelque chose. Alors ici, le texte le fait presque, je dirais, d'une manière systématique et caricaturale. Il y a ce dédoublement que Michel a souligné. Et le problème du texte va être comment ce dédoublement des choses va pouvoir s'articuler. Quoi, hein. Et on est engagé dans un voyage difficile, mais qui est posé comme principe dès le départ. Quoi, hein. C'est...
Voilà, moi je voudrais peut-être juste dire aussi qu'au départ, donc on a quand même ce mot-là qui vient, c'est le mot foi, hein, qui vient tout de suite dès le premier verset, et on nous dit que la foi est reçue. Et dans le verset 2, il sera question donc de la connaissance. Alors peut-être que c'est important qu'on souligne dès le départ qu'on va en permanence trouver ces deux éléments, la foi, et la connaissance, et on pourrait même dire la pleine connaissance, hein, celle qui nous permet de communier à la nature divine. En fait, donc après le premier verset, on nous dit que la grâce et la paix vous viennent en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur.
Une autre chose avant, j'aurais voulu signaler, c'est que ils ont reçu par la justice une foi de même prix. La foi est un don, apparemment, quelque chose qui se reçoit. Et d'emblée, ça nous est donné comme un acquis.
Voilà, donc on va essayer d'articuler la foi qui est reçue et avec cette foi reçue, il est question d'essayer de parvenir à une connaissance, hein, à la connaissance.
Cette foi... Pardon.
Oui, je voudrais revenir un peu encore sur ce dédoublement. Vous voyez, il y a Siméon, hein, c'est le nom du monsieur le pêcheur. Et Pierre, c'est le nom de celui qui a reçu mission de tenir la barque de l'Église. Et alors, ensuite, il y a serviteur et apôtre. Il y a toujours comme deux niveaux dans tout ce que nous voyons pour aboutir par la connaissance de Dieu. Il y a même Dieu et Jésus. Vous voyez ? Et peut-être que pour plusieurs d'entre nous, il n'est pas inutile de faire la différence entre toutes ces choses.
En tout cas, elles sont posées là d'une manière très, très, très précise. Et l'autre chose qui est montrée là aussi, c'est que la grâce et la paix vous viennent en abondance. Finalement, ce qui est en fin de parcours, c'est la grâce. La grâce est gracieuse, c'est gratuit, c'est donné. Hein. Et la paix, c'est l'état final, je dirais, de
béatitude,
de
un
paix,
petit peu.
Oui, de béatitude, enfin, en tout cas
de tous les organes qui ont accompli leur mission.
Grâce et paix, c'est-à-dire don et repos, je dirais, au terme d'un chemin, hein, et que ça vous vienne en abondance. Alors là, ce qui est peut-être le plus étonnant et qui est au nœud probablement de toute cette épître, c'est ça vient par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. C'est la connaissance qui nous donne d'avoir accès par la grâce à la paix. Enfin, il y a quelque chose qui s'articule là qui est assez tonique et qui va être mis en œuvre dans la suite de...
Voilà, alors je propose justement qu'on avance un petit peu, qu'on prenne les versets 3 et 4. En effet, la puissance divine nous a fait don de tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa force agissante. Donc c'est au point de départ le rappel d'un don, hein, qui a été déjà souligné au premier verset. Mais ici on nous précise, la puissance divine nous a fait don de tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété.
Oui, et justement, on retrouve encore cette division des choses, n'est-ce pas ? À la vie et à la piété, et sans chercher à aller plus loin, on a l'impression qu'il y a là comme un domaine qui serait naturel et un autre peut-être qui serait un peu plus tourné vers Dieu. Mais pour le moment, je n'en sais pas plus.
Il y a une division des choses, hein.
Oui.
Une division du sujet, comme diraient certains savants, n'est-ce pas ?
Et donc, là, ce qu'on dit aussi, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par
oui.
sa propre
Encore
gloire
cette double chose.
Et sa force agissante. Alors évidemment, il faut comprendre le Christ, hein, celui qui nous a appelés, mais donc il y a cette idée d'appel là aussi qu'on va peut-être souligner. Hein. Donc on est appelé par le Christ. Et alors on a ces deux dimensions-là, par sa propre gloire, et sa force agissante.
Oui, alors appelé, on verra tout à l'heure que appelé va s'articuler avec élu, n'est-ce pas ? L'élection. Et ici, il nous a appelé par sa propre gloire et sa force agissante. Alors ça, c'est tout à fait étonnant, parce qu'on a un peu lu la suite et on va voir que ça va jouer aussi pour les humains. La gloire, c'est l'être divin, hein, et sa force agissante, on pourrait dire que Dieu a mis en œuvre sa force agissante, que la suite du texte traduira vertu. Dieu a mis en œuvre sa force agissante pour nous faire accéder au don de la foi. Et il y a une mise en œuvre en Dieu de la force agissante qui conduit à ce qui nous est donné.
Donc je voulais dire par là que c'est vrai qu'on a souligné que Jésus c'était le Sauveur, d'une part, et Jésus était désigné aussi comme notre Seigneur. Et donc, on trouve ces deux expressions par sa propre gloire et sa force agissante. Alors, je poursuis avec le verset 4. Par elle, donc par la gloire et la force agissante, si nous lisons bien le texte, les biens du plus haut prix qui nous avaient été promis nous ont été accordés pour que, par ceci, vous entriez en communion avec la nature divine, vous étant arraché à la pourriture que nourrit dans le monde la convoitise. Alors,
oui, il y a... Ici, on est en plein dans les divisions encore, n'est-ce pas ? Peut-être que la plus évidente, c'est la dernière. Il y a d'un côté la nature divine, et de l'autre, il y a la pourriture que nourrit la convoitise. Voilà, donc déjà deux choses bien, bien placées. Et on pourrait probablement, avant ces deux-là, il y en a deux autres.
Les biens du plus haut prix, voilà, c'est ça, qui nous ont été accordés.
Voilà, qui ont été promis et qui aujourd'hui sont accordés. Voilà, promis, accordés aujourd'hui.
Alors donc il y a quand même une finalité qui est indiquée là, qui est d'entrer en communion avec la nature divine, c'est-à-dire de participer à la nature divine.
Oui, toutes les notes le signalent, hein, cette expression nature divine, c'est la seule fois qu'on l'entend dans toute la Bible. C'est une expression qu'on ne trouve nulle part ailleurs, qui aura une grande fortune dans la suite de nos philosophes et de nos docteurs. Mais ici, c'est bien montré qu'il y a, je dirais, c'est dans la suite de ce que les modernes appellent la division du sujet, n'est-ce pas ? Il y a la nature divine, il y a cette part divine à laquelle qui nous est donnée, hein, et qui est mise ici en opposition avec ce qui est. Alors ça, c'est assez. Je ne dis pas machiavélique, pas manichéen, mais un peu quand même, hein, qui est mis en opposition avec la pourriture. Et qui est sûrement quelque chose qu'il faudra essayer de comprendre et d'articuler.
Et en même temps, on nous précise bien que c'est selon en fait les efforts de ceux à qui s'adresse ici Simon-Pierre, donc c'est selon les efforts de ceux qui vont s'arracher à cette pourriture, qui seront en mesure après d'avoir part à la nature divine. Donc oui, il y a bien un travail en quelque sorte à faire sur soi.
Oui, et ce qui est mis en avant, c'est la convoitise humaine. Ce qui amène à la pourriture, c'est la convoitise humaine. On pourrait dire que la convoitise, l'envie, est sûrement mise en opposition d'une manière extrêmement forte avec ce qui est de l'ordre du désir.
Alors, on va poursuivre un petit peu, verset 5. Et pour cette raison même, concentrant tous vos efforts, joignez à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, à la ténacité, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Alors là, on a toute une énumération là qui nous mène de la foi, hein, jusqu'à l'amour, en passant par la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la ténacité, la piété, l'amitié fraternelle, et donc pour arriver à l'amour. Alors, comment on peut articuler tout cela ?
Moi, je veux bien essayer. On a pas mal travaillé ça. D'abord, je crois qu'il faudrait noter, en tout cas dans la tobe, la traduction qui est la vertu. La vertu, c'est le mot latin virtus, n'est-ce pas, hein, qui est traduite un peu plus haut. Mais la note est mise, hein, par force agissante. Donc, si on veut, pour éliminer une interprétation fausse, on pourrait dire, voilà...
Il ne s'agit pas du sens de personnes
vertueuses.
Concertant
tous vos efforts, joignez à votre vertu la force agissante.
Hein? Or, joignez à votre foi, parce que je crois que c'est ça qui est important. Oui, parce que la foi, elle est donnée. Voilà. Et c'est, voilà, en plus, on doit y adjoindre donc, voilà, cette force agissante.
Hein? Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on remarquait tout à l'heure aussi, c'est que Dieu lui-même a mis en œuvre sa force agissante sur sa propre gloire, par sa gloire et sa force agissante. Et ici, c'est joignez à votre foi la force agissante, à la force agissante, la connaissance, qui n'est plus la connaissance de Dieu, mais la connaissance d'une manière plus simple. Voilà. Il y a cette articulation entre, je dirais, la foi qui est donnée et la foi qui est à mettre en œuvre. Voilà.
Alors, donc, en fait, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est presque des paliers. Enfin, c'est peut-être difficile de parler comme ça, mais voilà, on a l'impression qu'effectivement, ça nous mène à l'amour. Mais le texte nous précise que, justement, l'amour, c'est pas la fin du parcours, en quelque sorte, parce qu'au verset 8, on nous dit « car ses qualités, donc y compris l'amour, hein, si vous les possédez en abondance, ne vous laisse pas inactif ni stérile pour connaître notre Seigneur Jésus-Christ. »
Oui, c'est tout à fait étonnant. Parce que déjà, tout à l'heure, dans ce qu'on notait, hein, la force agissante sur la foi aboutit à la connaissance. Et ici, on nous redit que de nouveau, cette activité qui passe passe éminemment par l'amitié fraternelle et par l'amour aboutit à la connaissance, non plus à la connaissance ordinaire, mais à la connaissance, elle est là pour connaître notre Seigneur Jésus, le Christ. Voilà. Et ceux à qui ça manque, ce sont des aveugles. C'est voilà, curieux, donc là, la place de la connaissance.
Voilà, vous parlez du verset suivant, mais peut-être préciser encore
On parle beaucoup de connaissance. Alors effectivement, tout à l'heure, il fallait ajouter à la force agissante la connaissance, c'était la connaissance humaine. Et tout le reste, au niveau connaissance, c'est de la connaissance divine dont il s'agit.
Tout à fait.
Et je crois que c'est important de le signaler, puisque dans le texte grec, fait bien la différence au point de vue terme.
Oui, ce que vous voulez dire, c'est que lorsqu'il est question de connaître Dieu, ou connaître Jésus, notre Seigneur, c'est toujours en fait la vraie connaissance, la pleine connaissance. Voilà. Et lorsqu'ici, donc au verset 6, il est question, au verset 5 et 6, il est question de connaissance, c'est une connaissance
humaine,
disons, à la mesure de l'homme, mais qu'il lui faut mettre en œuvre, hein, comme on dit, pour arriver à la maîtrise de soi et ensuite pour parvenir avec d'autres étapes à l'amour. Alors donc ici, on dit que si on possède ces qualités en abondance, alors on a toujours cette idée là aussi qui revient souvent, posséder en abondance ces qualités, eh bien à ce moment-là, on ne sera pas rendu inactif et stérile pour connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a bien, on pourrait dire, toute une tension de l'être du chrétien, de celui qui est le disciple du Christ, pour aller vers cette connaissance, cette pleine connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
On pourrait dire que c'est le terreau sur lequel cette connaissance, cette vraie connaissance de Jésus-Christ peut s'épanouir.
Et alors, on nous précise effectivement, verset 9, « En effet, celui à qui elle manque ces qualités-là, c'est un aveugle qui tâtonne, il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. » Alors qu'est-ce que ça nous dit ça, un aveugle qui tâtonne? Est-ce que ça veut dire donc que désormais il y a une lumière qui n'existe plus, Jo?
Oui, je dirais un peu ceci, c'est que, vous voyez, je crois qu'il s'agit de la connaissance de Jésus le Christ, hein, c'est ça qui est proposé. Eh bien, la plupart des gens d'aujourd'hui souhaitent connaître Jésus. Et souvent, on cherche à le connaître par la piste, disons, de livres intellectuels, de discussions, de débats. Et ici, j'ai bien l'impression qu'il s'agit d'autre chose. Qu'il s'agit de rentrer, non pas dans une recherche de type intellectuel d'abord, mais de rentrer dans une manière d'agir qui nous est donnée par la force agissante que nous avons reçue. Et que si on se laisse et si on fait des efforts pour agir dans ce sens, eh bien, on finit par, quelque part, être en accord avec Jésus-Christ et arriver, d'une certaine manière, à le connaître, et qui est tout autre chose qu'une connaissance par les livres. Enfin, voilà comment je vois les choses.
Oui, c'est pas simple, sûrement, oui.
Le texte tout à l'heure nous disait qu'il fallait ajouter un certain nombre de choses à la foi, dont la connaissance humaine entre autres. Ça veut dire que la foi, enfin moi je le comprends comme ça au moins, est comme, je dirais, la base sur laquelle tout est fondé. C'est un savoir, on sait, hein, c'est quelque chose qui nous est donné, mais dont il faut prendre connaissance.
Mais
il va falloir
Est-ce que vous diriez, vous, dans ce cas-là, est-ce que vous avez envie de dire, bah, c'est la foi et les œuvres? Est-ce que vous diriez ça comme ça?
Ah non.
Non.
Ah non, non,
pas
non,
ici, non.
Non, non,
pas
non, non. Ici,
pas
on
ici.
Peut pas dire ça. C'est bon, Saint-Jacques,
donc,
mais pas ici.
Voilà, donc on va garder cet écart. En fait, on nous dit que la foi, elle a été donnée, c'est un don qui est reçu. Et il faut fournir.
Ajouter à ça.
En plus, il faut adjoindre donc tout ce qu'on a dit, hein, la force agissante, etc. Donc, pour parvenir à l'amour. Mais alors,
sinon, c'est l'oubli.
Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'au fond, ce qui est proposé là, c'est le chemin d'humanité au départ, oui. Cette amitié fraternelle, cette fraternité entre les humains, et que ça, c'est en quelque sorte
la base
sur laquelle on pourra, si justement on est actif et qu'on est fécond, pourra être aussi sur le chemin de la connaissance de Jésus le Christ, comme disait tout à l'heure Jo. Et donc, je crois que lorsqu'on a cette expression, là, celui qui n'a pas ces qualités-là en abondance est un aveugle qui tâtonne, il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Comment vous comprenez ça ?
Je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de... qui a été donné et qui permet de créer en soi une espèce de désir qui va à l'encontre de la pourriture, des convoitises qui mènent à la pourriture, et qu'il y a un rapport avec ça, avec le fait d'être aveugle ou de voir clair. Hein?
Françoise ?
Oui, l'oubli d'avoir été purifié de ses anciens péchés, est-ce que ce ne serait pas aussi une allusion au baptême qui était donné donc à des adultes et qui purifiait des péchés et donc oublier son baptême,
oui. Oublier sa vocation,
et dans ce sens,
oublier son élection.
C'est pas pour rien qu'au baptême on donne la lumière, tu
voilà,
vois, et qu'ici il est question d'aveuglement, et donc ce péché pourrait être le fait d'être dans la nuit, quoi.
Alors, c'est vrai qu'ensuite, au verset 10 et 11, je vais aller assez rapidement. C'est pourquoi, frères, redoublez d'efforts pour affermir votre vocation et votre élection, ce faisant, pas de danger de jamais tomber. C'est ainsi, en effet, que vous sera généreusement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, dans cette finale, pour nous aujourd'hui, c'est bien ça qui est au terme du parcours, c'est l'entrée dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc on voit bien que cette fois-là, il y a l'articulation entre le Jésus-Christ Seigneur, le Seigneur et le Sauveur. Donc peut-être qu'il nous faudra attendre une prochaine émission pour voir un petit peu comment nous allons avancer un peu dans cette épître de Pierre et comment l'auteur de cette lettre va nous aider à articuler tout ce qui est de l'ordre du salut et de la connaissance et comment ça va jouer avec la foi. Et donc on pourra voir quelle est aussi la place du témoin apostolique. À une prochaine fois sur RCF Rivage. Merci d'avoir été des nôtres.